Les projets pilotes de verdissement et de déminéralisation des rues dans les quartiers centraux est en marche. D'ici les deux prochaines années, la ville souhaite réaliser 10 projets pilotes de verdissement, notamment dans Saint-Jean-Baptiste. Où verdir? Eh bien, c'est en gros la question posée par la ville aux citoyens pour augmenter l'indice de canopée, un indice particulièrement faible dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Pascaline Lamarre du journal Le Bourdon du Faubourg, au micro du magazine Dans ma rue avec David Lemelin.
L'indice de canopée dans Saint-Jean-Baptiste, c'est pas
viable. C'est pour ton date autour de 3, j'imagine?
Non, on est à 10%. 10%. Okay. Mais ce qui est quand même le moins dans toute la ville. Ouais. Et la cible de la ville pour 2025, tout à fait ambitieuse de 15%. Okay. Mais bon, on prend ce qu'on nous donne. Hein. Saint-Jean-Baptiste est hyper densément peuplé, puis on n'a plus beaucoup d'espaces naturellement verdissables, si j'ose dire, mais c'est pas pour ça qu'on peut rien faire, puis ouais, on peut travailler quand même sur des endroits, et c'est maintenant qu'il faut se prononcer et proposer des choses. Donc on a jusqu'au 10 décembre, et les citoyens sont invités à identifier sur une carte interactive, sur la plateforme de participation citoyenne, des rues ou des tronçons à déminéraliser. Et si un endroit a déjà été signalé, on peut le resignaler et réavancer des arguments.
Faites connaître votre opinion à participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/verdissement. Mieux comprendre la radicalisation et l'extrémisme violent, c'est le sujet autour duquel l'organisme Action Interculturelle nous propose de réfléchir. David Morin, co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, et Sylvana Albaba Douéhi, coordonnatrice de la même chaire, offriront différentes mises en situation, préciseront le concept clé et démystifieront demain certaines particularités. L'événement virtuel est ouvert à tout le monde. Plus d'informations sur la page Facebook de Action Interculturelle. Le bal du maire de Québec, version virtuelle, qui s'est tenu vendredi, a permis d'amasser 225 000 dollars. Grâce aux bénéfices, la Fondation Jeunes en Tête continuera de soutenir différents projets innovants d'organismes d'entraide jeunesse des régions de la capitale nationale et de l'Est du Québec qui travaillent en complémentarité avec elle auprès des jeunes en difficulté. La Fondation pourra également accroître le déploiement de son atelier La Base de la Santé Mentale, offert gratuitement et virtuellement dans les écoles secondaires de la région pour prévenir la détresse psychologique chez les adolescents. Rappelons que chaque année, des milliers de jeunes en difficulté de 11 à 18 ans font appel à des organismes d'entraide jeunesse de la capitale nationale et de l'Est du Québec. Par le biais du bal du maire de Québec, la Fondation Jeunes en Tête a réussi à aider au fil des années plus de 20 000 adolescents et à investir plus de 3,2 millions de dollars dans des programmes pour soutenir les jeunes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à Beauport et en Mauricie grâce à ckiafm.org. Bonne journée. À l'écoute de la radio généraliste et progressiste, attention à vous.
Déploiement du télescope de CKIA. C'est l'heure d'observer le cataclysme le plus inspirant de la galaxie. Préparez-vous pour
l'éclipse.
Un magazine qui met la lumière sur la philosophie et des réflexions excentriques à la périgée des enjeux de notre ère. Pour la prochaine heure, Mathieu Giguère et Dominique Chevalier prennent les commandes de CKIA et de toutes ses plateformes numériques. Voici l'éclipse.
Ouais, ça recommence encore cette émission-là.
Ça recommence, mais pour la dernière fois de cette saison.
C'est vrai, parce que c'est la dernière avant nos on va appeler ça des vacances, des fêtes, là, je sais pas. D'autres, on est déjà occupés, puis
très occupés.
C'est ça, et ça va revenir le 11 janvier, Eclipse. D'ici là, vous aurez droit à des rediffusions, des meilleurs moments, des émissions, on ne dira pas des meilleurs moments.
Des pires moments.
Des pires moments, meilleurs et des pires. Depuis le début de cette saison de radio qui a commencé, je vous rappelle, en septembre, et on est rendu là, donc tous les lundis, rediffusion les mercredis, on vous a parlé, et on est là, puis...
Mais là, c'est ça, là, dans cette première saison de l'éclipse, on est allé un peu partout, on a exploré toutes sortes d'idées, mais là, aujourd'hui, on retourne vers l'origine.
On vous avait vendu, de quoi qui s'appelle, là, technologie, psychologie, philosophie, c'était censé être ça, l'éclipse. Ça l'est encore. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, on s'en va plus loin encore. On s'en va à l'univers. L'origine de l'univers, le Big Bang. Le Big Bang, je l'ai dit. Je te l'ai dit hier.
Il a dit le Big Bang.
Je te l'ai dit. C'est sûr, je vais dire Big Bang toute l'émission parce que dans ma tête, c'est comme ça que ça sonne.
Big Bang. C'est comme la musique, en fait. Mais Hey, c'est aussi un autre, une émission d'Éclipse assez impressionnante. On a notre tout premier invité.
Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vers là qu'on s'en va sans plus attendre, vers notre premier invité de l'histoire d'Éclipse.
À tout de suite.
Ouais, vraiment.
Mais qu'entends-je? De la philosophie, de la psychologie et de la technologie dans ma radio? Ah, c'est l'Éclipse, votre dose hebdomadaire de réflexions excentriques à la périgée des enjeux de notre ère. À CKIA FM 88.3.
Effectivement, on fait des prouesses technologiques aujourd'hui et on a une invitée dans l'Éclipse. Elle va nous parler d'un livre qu'elle a lu récemment là, sur la naissance du Big Bang pour mettre la table sur notre sujet du jour. Au bout du fil, Lou Paris, qui détient un baccalauréat en biophysique et une maîtrise en écotoxicologie. Salut Lou!
Bonjour, vous allez bien?
Oui, oui, toi, ça va aussi?
Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation.
Bien, ça fait plaisir. Premièrement, là, aujourd'hui, il va être question d'un livre de Georges Lemaître. C'est qui ça, Georges Lemaître?
Bien, c'est pas... Oui, c'est un livre de Georges Lemaître, mais je vais vous mettre un petit peu en contexte du livre là, qui s'appelle « La naissance du Big Bang ». Puis moi aussi, je vais faire attention de vous dire « Big Bang », mais j'ai bien trouvé l'introduction divertissante. En fait, Georges Lemaître, c'est un scientifique qui a écrit plusieurs articles et plusieurs... il a donné beaucoup de conférences aussi. Et ça, il l'a rédigé au cours de sa vie, mais c'est plus dans les années 20, les années 30. Mm-hmm. Donc, le livre aujourd'hui, il est publié par Jean-René Roy, que je vais vous présenter un petit peu après. Okay. Mais okay. En bref, c'est juste pour vous dire que le livre, c'est une alternance entre Georges Lemaître et Jean-René Roy. Pour information, c'est les collections Réminiscence et c'est une parution super récente en fait. Ça date du 28 octobre dernier 2020 et c'est un petit livre, 284 pages. Mmh. Donc c'est bien modeste, ça se lit bien. Et là, je vais répondre à votre question.
Oui.
Qui est Georges Lemaître? Donc désolé, ça me prenait le préambule pour dire qu'ils sont deux, hein. On va dire deux auteurs en quelque sorte dans ce livre-là,
ben oui.
Même s'ils ne se sont pas nécessairement rencontrés. Mm-hmm. Je vais vous faire vraiment une biographie extrêmement brève, mais si vous voulez une très bonne biographie qui est complète, il y a le livre de Dominique Lambert qui s'appelle « Un atome d'univers, la vie et l'œuvre de Georges Lemaître ». Donc ça, c'est vraiment une bibliographie qui est très complète et détaillée. Moi, je vais y aller en quatre phrases pour le bien de l'émission. Mais il est né en 1894 et c'est un Belge, donc il est né en Belgique. Et il a, entre autres, rédigé un mémoire sur la physique d'Einstein et qui lui a valu le fait d'être admis à l'Université de Cambridge comme étudiant-chercheur. Puis la même année, ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme fait, oui. La même année qu'il a été admis comme étudiant-chercheur à l'université, il a été ordonné prêtre. Fait que pour lui, c'était vraiment facile de concilier ses aspirations scientifiques et religieuses.
C'est quand même rare, ça, parce que religion et science...
Ouais, de nos jours, on dirait que ça s'oppose quasiment, mais pour lui, c'était pas incompatible. Puis au cours de sa carrière, il a souvent rencontré Einstein. Ses travaux ont été vraiment impressionnants. Mais est-ce que vous aviez déjà entendu parler de lui avant que je vous arrive avec ça?
Pour être honnête, non. Toi, Mathieu?
Aucunement, en fait. Mais pour être franc, quand j'entends dire qu'il a fait des études en religion et en sciences, ben, je peux juste voir qu'il est vraiment curieux.
Ouais, oui, il est vraiment intéressant. Effectivement, puis il est pas, tu sais, il est moins connu, mettons, que Planck, qu'il y a la constante de Planck. T'sais, il n'y a pas nécessairement une unité de mesure qui est à son nom, mais il y a quand même un cratère lunaire et un astéroïde à son nom. Fait que c'est juste qu'on a moins entendu parler.
C'est beaucoup moins que ce que nous avons à notre nom, ça, Lou.
Ben, c'est ça, c'est déjà quand même prestigieux.
Moi aussi,
tu me rappelleras quand tu auras un cratère lunaire à ton nom.
Exact.
Puis, 1894, je crois, sa naissance, donc je vous annonce qu'il est décédé. En 1966, donc c'est relativement récent, d'une leucémie. Puis ça m'amène à réfléchir au fait que la physique, même si on étudie les débuts de l'univers, c'est quand même récent les connaissances qu'on a à ce sujet-là, puis les débouchés qu'on a eus. Puis ça, on dirait que ça fait pas si longtemps qu'on pensait que la Terre est... Enfin, je vais dire que la Terre était plate, mais bref, qu'il y avait juste
la
Terre qui s'arrêtait au bord de la Terre. Je voulais pas m'embarquer là moment. Mais bref, puis nos connaissances étaient plus limitées sur ce qui était la cosmologie, etc.
C'est bon. Jean-René Roy, maintenant, c'est sûrement quelqu'un de plus récent.
C'est un peu plus récent, effectivement. ils ont quand même vécu certaines années en même temps. Jean-René Roy, c'est un astrophysicien qui est québécois. Il a fait un doctorat en 1973. Donc, s'il nous écoute, j'allais dire, il n'est pas jeune, c'est pas méchant. C'est juste une personne qui a beaucoup d'expérience.
Ouais.
Il a étudié en astronomie à l'Université de Western en Ontario. Puis, il a travaillé dans beaucoup d'instituts internationaux aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Canada. Il a travaillé à l'Université Laval, donc vous l'avez peut-être eu comme enseignant, les chers auditeurs. Puis, en 2017, vous avez peut-être vu son nom passer parce qu'il a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, tellement ses contributions ont été jugées importantes.
Quand même. Tu as dit au début, là, donc, que le livre, on a un livre qui est divisé en 5 sections, 284 pages. Quelles sont ces sections-là, Lou?
Excellente question. Dans le fond, pour préciser un peu c'est quoi ces sections-là, c'est la première partie, c'est vraiment l'article de Monsieur Georges Lemaître, donc vraiment comment lui l'a écrit. Et la deuxième partie de chaque section, c'est Jean-René Roy qui complète les informations, qui parfois les vulgarise, qui les bonifie en quelque sorte avec soit les avancées ou soit d'autres connaissances qu'il y avait à l'époque en parallèle. Puis les 5 titres des sections, sont la grandeur de l'espace, l'expansion, l'évolution, hypothèse cosmogonique et l'hypothèse de l'atome primitif.
OK, moi je suis hooked là. J'ai le goût d'en apprendre plus. Et puis, à ce que j'entends, il semble que Georges Lemaître et Jean-René Leroy étaient vraiment des partenaires de recherche qui ont comparé leurs notes et puis des choses comme ça. Mais est-ce que tu aurais un fait saillant à sortir pour chacune des sections?
Oui. Ils n'ont pas travaillé ensemble, comme j'ai dit, c'est juste que Jean-René Roy a repris les écrits de Georges Lemaître et les a complétés, les a bonifiés avec
l'évolution avec de la science.
Ses apports, exactement. Enfin, ils n'ont pas mis en commun leurs écrits pour travailler sur le livre ensemble. C'est vraiment les écrits de 1920-1930 par Georges Lemaître et les ajouts récents de Monsieur Roy. Puis qui a fait une parution en 2020 de ce livre-là. C'est juste pour spécifier, jouer un peu avec les nuances, là, je suis désolée.
Pas de trouble.
Puis, écoutez, tant qu'à faire des faits saillants, je vais vous travailler les neurones un petit peu.
Ah non.
Pour la section. Oui, oui, soyez prêts. Grandeur de l'espace. Comment quelque chose peut être fini, mais sans borne? Avez-vous un exemple de quelque chose qui pourrait être fini, mais sans borne physique?
Je vous dirais, je répondrais à cette question-là, l'univers qui est en expansion. je dirais ça, moi.
Ah, je pense qu'il y a un petit biais avec le sujet de l'émission.
Oui, c'est nos recherches d'hier qui nous ont amené à ça.
Vous êtes fort. Mais est-ce que pour vous, c'est facile à imaginer et à concevoir?
Je pense que c'est un concept qui est totalement... C'est pas naturel de comprendre ce concept-là pleinement. T'sais, on a des limites un peu biologiques à ce qu'on peut penser. Et puis, ça, c'est quelque chose qui vraiment va jouer sur cette limite-là. Là. C'est difficile à imaginer un concept, justement, de quelque chose de fini, mais à la fois qui peut continuer à grossir. Ou juste même quand on parle de l'univers, qu'est-ce qu'il y a après l'univers? T'sais, l'univers est en expansion, mais en dehors de ça, si tu vas plus loin puis tu vois l'univers s'étendre, qu'est-ce que t'es où?
Parce qu'on peut dire que l'univers est en expansion, mais... notre monde, la console, n'est pas en expansion, par exemple. Ouais. Donc, on ne le voit pas. Mm-hmm.
Oui, il y a ça. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est une analogie qu'ils ont fait dans le livre de quelque chose qui, dans notre presque quotidien, est fini, mais il n'y a pas de borne. Ils ont fait une comparaison avec les pays. Parce que les pays, nous, on sait qu'il y a une frontière, mais cette frontière-là, ce n'est pas nécessairement physique. Ce n'est pas un cours d'eau qui sépare deux pays. C'est juste une limite qui est là. Ils ont dit, c'est une borne, c'est une forme de frontière, mais c'est fini, un pays, mais il n'y a pas de borne physique. Fait que je trouvais l'analogie bien intéressante.
Ouais.
Fait que c'était. Félicitations, vous avez quand même très bien répondu au petit casse-tête intellectuel que je vous ai envoyé. Puis, un autre truc qu'on peut avoir, la relation fini-infini, c'est essayer de concevoir le nombre de grains de sable sur une plage, par exemple. Ouais. C'est tellement grand qu'on dit qu'il y en a une infinie. Mais en réalité, c'est fini, mais c'est foutument grand. Fait que c'est tout des petits. Réflexion comme ça que je trouvais bien intéressante.
Faut dire que les physiciens sont quand même l'âge de l'infini, c'est ça qu'on veut dire. Là.
trop de travail, infini.
Oui, c'est ça.
oui, en mathématiques, ça se fait bien aussi d'intégrer cette variable-là.
C'est vrai.
Pour la section suivante, expansion, j'ai une question. Est-ce que vous savez c'est quoi la constante cosmologique?
Est-ce que ça a le rapport avec l'univers est en expansion? Il me semble que c'est ça.
Oui.
Pourquoi est-ce que le mot gravité me vient en tête? Je suis pas sûr. Non. Il est dur celui-là.
Ouais.
Mais j'allais dire, t'es dans le bon registre en fait, dans le registre des forces. Donc la gravité, c'est une très bonne réponse. Mais avant, on parlait quand même de la force newtonienne, la force attractive. Donc, mm-hmm. tu as raison en mentionnant quand même la gravité, tu es dans le bon registre. Puis, la constante cosmologique, ce qu'elle venait ajouter aux informations physiques de l'époque, si on veut, c'était une force élastique qui était répulsive. Donc, je faisais augmenter le rayon de l'univers. Donc, tu avais tout à fait raison quand tu as parlé de l'expansion de l'univers. C'était justement une force, une constante qui a déterminé, qui venait bien balancer, si on veut, les équations, pour reprendre des termes plus simples. Mm-hmm. Donc, félicitations.
Mais ça, que, d'ailleurs, l'expansion de l'univers, là, puis je l'aborde là parce qu'on voulait l'aborder plus tard, mais... Tu sais, il y a ce qu'on appelle le Doppler effect, là, l'effet Doppler, mm-hmm. c'est-à-dire que lorsque quelque chose s'approche de toi, la fréquence va être plus haute. Si ça s'éloigne de toi, la fréquence va être plus basse. C'est pour ça qu'un autobus passe, ça fait zoom. Ben la même chose arrive avec la lumière. Et il y en a qui ont observé avec des télescopes des étoiles, et les étoiles ont l'air d'être plus rouges, donc leur fréquence plus basse. Donc ça veut dire qu'elles sembleraient s'éloigner de nous.
Ah, papé.
C'est comme ça qu'ils ont essayé de découvrir, si on veut, l'expansion de l'univers.
Ça complète et ça introduit tellement bien la prochaine section. Je trouve ça fantastique à quel point on ne s'est pas consulté, c'est fluide. C'est merveilleux. C'est la section suivante qui s'appelait Évolution, puis ça a été ma section préférée parce que c'était. Bon, il y a des segments dans le livre, je l'ai amené, qui sont quand même mathématiques, donc ça prend un peu de concentration. C'est pas nécessairement une lecture de chevet reposante. Mais cette section-là était sur la formation des étoiles, leur relation avec les galaxies, l'expansion. Donc, exactement ce que tu viens de dire. C'est du bonbon comme introduction. Donc, là, vous avez l'air bien avancé dans vos connaissances à ce niveau-là, mais d'après vous, est-ce que le Soleil, qui est une étoile, est une jeune étoile ou une vieille étoile? Et quelle est la prochaine étape qui l'attend?
Moi, je crois que c'est une jeune étoile. Et puis, la prochaine étape, ça va être... comment ça s'appelle? Grossir en rouge, je sais plus c'est quoi le terme. j'oublie les termes, là, mais... en gros, grossissement, puis elle va avaler les planètes à côté.
Pauvre Mercure!
On va-tu avoir un été pareil?
Oui, un été très chaud.
OK.
J'annonce. Très chaud sera annoncé. Peut-être une canicule, attention. Mais c'est exactement ça la bonne réponse de façon extrêmement bien vulgarisée. C'est les couches gazeuses externes vont prendre de l'expansion, puis notre Soleil, qui est une étoile, va devenir une géante rouge.
Ah, donc, c'est
une
ça.
Grosse rouge, comme tu dis.
Ouais.
C'était parfait. Puis éventuellement, le noyau va se refroidir, les gaz vont partir flotter dans l'espace, puis ça va former une nébuleuse planétaire. Donc, puis au cœur d'une nébuleuse planétaire, ben, il y a une naine blanche. Donc, c'est à peu près ça qui l'attend, notre Soleil. On ne devrait théoriquement pas être là pour le constater okay. de nos yeux vus. Mais bref, c'était une bonne réponse. Géante rouge, puis nébuleuse planétaire avec un cœur qui est une naine blanche, en une phrase. Donc, cette section-là, si vous avez peur que le livre soit un peu trop ardu, c'est facile de sauter d'une section à l'autre quand même, donc vous pouvez vous attaquer directement à la partie évolution, c'est la plus légère.
D'accord.
Section suivante, hypothèse cosmogonique. Donc, je l'admets, même si j'ai quelques connaissances de base dans le domaine, je ne savais pas c'était quoi la cosmogonie. Donc, est-ce que vous le savez? J'admets mon ignorance, et vous?
Ben, il y a cosmos là-dedans.
Ouais.
Il y a gonie.
C'est quoi ça?
Non, honnêtement, on le sait pas. Mathieu, t'en restes de googler ça, là.
Élément qui signifie génération.
Ah ben.
Génération du cosmos. Peut-être que c'est l'histoire de l'univers.
Ah, c'est bon, ça.
C'est mon hypothèse.
C'est vraiment fort. C'est exactement ça. C'est la théorie qui explique la formation de l'univers et certains objets célestes aussi. Donc, c'est pas juste l'univers, ça peut être justement une nébuleuse planétaire. Donc, la cosmogonie, c'est l'ensemble des hypothèses sur la formation de l'univers, de la Terre ou d'autres objets. Félicitations. C'est exactement ça.
On enchaîne
donc
ça.
Là, c'était plus les différentes hypothèses qu'il y a eu à travers l'histoire parce que, bon, même si j'ai dit que c'était relativement récent, vu que les gens partaient de rien ou de peu, puis leurs moyens d'observer l'univers étaient plus limités que nos outils technologiques aujourd'hui, il y avait beaucoup de parties qui étaient des réflexions intellectuelles seulement, puis ils essayaient des hypothèses entre eux, mais c'était plus dur de les tester. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses à l'époque. Il y avait beaucoup de réflexions qui provenaient de cerveaux différents, qui avaient tous des connaissances de base différentes aussi. Donc, c'est bien intéressant de découvrir ça, à quel point... Quand t'as pas de repères, les réflexions peuvent aller dans toutes les directions, puis ça fait un article, une section qui était très créative à lire.
Ça ressemble à nos discussions les vendredis soirs, Dominique.
Ah, ça ressemble à ça quand on se demande qu'est-ce qu'on veut faire pour le lundi, là. Ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Maintenant, dernière section, Lou.
Oui, l'hypothèse de l'atome primitif. Et là, c'est la question. Vous en avez parlé un petit peu dans votre introduction. C'est quoi votre compréhension de la théorie du Big Bang?
C'est pas une série télé.
C'en est une que je trouve, moi je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il y a un effet, je sais pas si vous avez écouté ça, mais il y a un personnage qui à un moment donné pour un party d'Halloween se déguise en effet Doppler pour faire un lien avec ce que vous avez dit.
Oh, ça doit tellement être beau.
Il se fait passer pour un zèbre dans tout l'épisode à cause de son costume. Je vous enverrai une photo à la fin de l'entrevue. Mais désolé pour cette parenthèse.
Ouais.
Donc oui.
Mais notre compréhension de la théorie du Big Bang, je vais dire que c'est quand même biaisé parce que hier on en a lu beaucoup là-dessus.
Ouais.
Le Big Bang, c'est que la matière s'est toute mise au centre au début et pouf.
Ouais, trop d'énergie, trop de matière.
C'est ça.
Trop de matière, trop d'énergie au début, donc dans un seul point. Et donc là, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Tantôt, on parlait de Planck, et puis on va en revenir plus tard dans l'émission, mais l'ère de Planck, qui est du temps 0 à 10 à la moins 43 secondes, ça, on n'a aucune idée c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le Big Bang, c'est quand même une théorie qui est difficile, puisque c'est mystérieux.
Ouais, c'est ça.
C'est une excellente réponse également. Dans le fond, la théorie du Big Bang, c'est l'hypothèse de l'atome primitif. C'est simplement un terme différent qu'on a utilisé, mais atome primitif, c'est celui dont vous avez parlé, c'est-à-dire quand la matière était toute agglomérée, c'était pas plein d'atomes collés, c'était juste un maudit gros atome. C'est pas tout à fait les termes que M. Lemaître a utilisés, mais c'était un gros tapon qui avait tout à l'intérieur. Puis effectivement, comme vous avez si bien dit, pouf! Ou bang, je sais pas.
Ouais.
Puis,
on parle du Big Bang, puis notre onomatopée, c'est pouf.
Oui, je trouve ça beau. Ça. On a le droit.
Mais effectivement.
Chacun sa théorie. On n'a pas d'enregistrement sonore, fait qu'on peut bien penser ce qu'on veut.
Oui.
Voilà.
Donc ça, c'est les cinq sections donc, du livre La naissance du Big Bang. Donc c'est quand même une belle mise en contexte là, du livre de Georges Lemaître et de Jean-René Roy, donc, qui a été commenté. Tu nous as dit que c'est la collection Réminiscence.
Oui,
puis c'est tout nouveau. C'est tout nouveau.
Oui, c'est un livre du 28 octobre 2020. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise que je dise le prix du livre en ondes?
Mais on n'est pas du tout.
Ceux qui sont intéressés, c'est 16$. Donc, c'est vraiment. Vous pouvez l'avoir en version numérique ou en version papier. Donc, c'est bien abordable. Si vous voulez un petit cadeau qui est un petit casse-tête intellectuel et qui est. J'allais dire qu'il est d'actualité. C'est pas tout à fait vrai, mais qui est instructif.
Ben, c'est encore d'actualité, on est encore dans l'univers, après
c'est
tout.
C'est plein de questions qui ne sont pas encore répondues complètement. Donc, ça laisse place à de la réflexion, de la créativité, et puis toutes sortes de questionnements vraiment intéressants.
Oui, c'est ça. Donc, voilà. Encore une fois, une belle idée cadeau. Merci beaucoup, Lou Paris, d'être venu dans l'Éclipse aujourd'hui pour nous présenter ce livre.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
Oui, bonne fin de journée. Et nous, on va poursuivre l'émission en musique, chers auditeurs, chers auditrices, parce qu'on est dans l'univers, on est... 100 miles away from home, mais pas vraiment parce qu'on est dans l'univers, mais en tout cas, vous comprenez notre lien. Donc, Styx, 100 miles away from home. Vous écoutez l'Éclipse, ça c'est Kaya.
Still on my mind in the head.
Hey, je te dis, cette chanson-là, là, j'ai le goût d'être astronaute.
Pour vrai?
Ouais, moi là, c'est écoute, vrai? Si un jour quelqu'un m'approche puis il met cette chanson-là, puis après il me donne « Hey, j'ai des billets pour Mars, tu veux-tu y aller? » Vendu.
Ouais, mais Mathieu, je pense que t'aurais même pas besoin de la chanson puis tu irais sur Mars si tu étais approché pour aller sur Mars.
C'est vrai, mais cette chanson-là aide beaucoup, là.
Ouais,
écoute, c'est une mélodie, c'est un calme, c'est relaxant, ça fait vraiment du bien.
Ouais, donc c'était 100 Miles From Home, Styx.
Pour la première fois au monde, Sekaya vous propose d'écouter une éclipse. Ah ouais, on n'arrête pas le progrès.
Tantôt, on a abordé le sujet de l'ère de Planck.
Oui.
Et puis, ouais, l'ère de Planck, c'est vraiment un mystère pour notre compréhension de l'univers moderne. Une compréhension moderne de l'univers. Et puis, donc là, on a l'ère de Planck qui serait en fait le temps zéro jusqu'au temps 10 à la moins 43 secondes. Donc ça fait... C'est très rapide.
Oui.
Très, très rapide. Et puis, de ce temps-là, on sait que l'univers était plus petit que 10 à la moins 35 mètres. Donc ça, c'est très petit.
C'est comme on disait un atome,
ouais.
Quasiment. Là.
Ouais, ouais. Puis, on n'a vraiment aucune idée de ce qui se passait pendant ce temps-là ou avant ce temps-là. C'est vraiment ça qui est plus complexe avec notre compréhension de l'univers, c'est que nos équations mathématiques et puis les modèles qu'on a pour représenter la réalité qu'est l'univers ne fonctionnent pas de cette période de temps-là.
Quand tu as dit temps zéro à temps 10 à la moins 43 secondes, ça c'est donc après le Big Bang quand même.
Il y a encore du Big Bang.
Je suis pas capable. Je le dis toujours Big Bang. Puis c'est pas parce que je le pense Big Bang dans ma tête, c'est parce que je le dis puis ça sonne comme ça. Le Big Bang. Ça c'est donc le Big Bang était commencé.
Ouais.
OK.
Mm-hmm. Donc c'est juste après, juste après que le Big Bang a sauté.
Merci. Après que ça ait fait pouf.
Oui, mais là, justement, en parlant de pouf, là, je vais essayer de peindre une petite scène dans laquelle un milliardième de seconde est passé après le Big Bang. Juste un milliardième de seconde. Ça, c'est pas 1000 secondes, là. Ça, c'est une seconde divisée par un milliard. OK? Puis.
10 à la moins 9, tout le monde.
Ouais.
C'est bon?
Ouais.
Vous nous suivez encore? On y va.
OK. Donc là, à ce temps-là, l'univers était vraiment, vraiment chaud. OK? Tellement chaud que la lumière, les particules de lumière appelées photons, ils pouvaient convertir leur énergie en paires de matière et antimatière. Ça veut dire que l'énergie faisait tellement chaud là, que la lumière faisait hop, hop, et puis créait de la matière et de l'antimatière. Bon, c'est quoi de l'antimatière? C'est un peu le frère ou la sœur de la matière, et puis quand ils se touchent, ça fait boum, en énergie. OK?
OK, donc matière plus antimatière égale énergie.
Exact. Et puis là, justement, quand l'univers était assez chaud et que les photons ont justement fait de la matière et d'antimatière, ben, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, tout était compressé, ben, la matière et l'antimatière se touchaient et donc les paires se sont annihilées. C'est ça l'annihilation. L'annihilation, c'est quand on a ce processus-là.
Donc là, t'as peu. On veut récapituler un peu parce qu'on est allé vite. Là.
Bon, c'est vrai.
La lumière est composée de petites particules. La plus petite particule de lumière qui existe, Madame Lumière, c'est un photon.
Mm-hmm.
OK? Donc, il y a des photons et les photons vont se convertir en matière et antimatière, c'est ça?
Ouais.
Donc.
Mais à des conditions spécifiques. Ça arrive très rarement. Mettons, ça arrive pas, là. Il faut qu'il y ait des conditions extrêmes pour que la lumière puisse se convertir comme ça.
C'est bon. Alors là, matière plus antimatière, ça a fait beaucoup d'énergie. Donc, le Big Bang, c'est un événement énergétique. Beaucoup d'énergie là-dedans.
C'est un peu comme une réaction en chaîne, un peu à l'image d'une explosion nucléaire.
OK.
Et puis, donc là... les paires se sont annihilées pour retourner en photons. Donc, ils ont fait photon, matière, antimatière, photon.
OK.
Et puis là, avec tout ça, on a une soupe de particules qui est créée. Parce qu'avec l'annihilation, des fois, il y a des quarks, des leptons et toutes sortes de... Ben, leurs voisins d'antimatière qui vont apparaître.
Ça sonne ludique, ça. On dirait que les physiciens qui ont décidé de donner des noms aux particules, là, ils sont lâchés lousse.
Mais ils sont très joyeux, ils sont très... Quark, lepton, c'est des noms très coquins.
On me dit à l'oreille que les leptons sont l'ancêtre. Tu parlais d'une soupe de particules. Ouais. Sont l'ancêtre de la soupe Lipton.
Ah, c'est ça.
C'était trop facile, fallait que je la fasse. OK, on part.
Je vais maintenant essayer de peindre une autre scène, mais cette fois-ci à un millionième de seconde qui est passé. Donc, à un millionième de seconde, oui, on rapetisse dans l'ordre, mais c'est parce qu'on avance vers une seconde
c'est
complète.
C'est ça, on est un millième de seconde plus loin.
Ouais.
OK, donc 0.001 seconde plus tard, qu'est-ce qui se passe, Mathieu?
Bon, là, les quarks, qui sont des petites particules qui forment les atomes, ils se sont trouvés des partenaires de danse. Parce que les quarks, ils doivent être en partenaire de danse pour former des atomes, sinon ça marche pas. Donc là, justement, ils vont former des hadrons, protons et neutrons, tout ça pour faire des atomes. C'est tout du jargon de physique, mais en gros, le résultat, c'est atomes. Donc les quarks, ils se trouvent des partenaires de danse en groupe de trois pour créer, en groupe de deux ou de trois, pour faire des particules plus complexes. Mais là, tantôt, je t'ai parlé d'annihilation. Mais qu'est-ce qui arriverait si partout où est-ce que t'es, il y a de la matière et de l'antimatière? Ben, tout s'annihile.
Ouais, c'est ça. Tout devient de l'énergie.
C'est
ça.
Mais là, on est vraiment chanceux d'exister parce qu'il y avait une asymétrie dans le ratio de matière et antimatière qui a été produit. Parce que si ça avait été un 1 pour 1, qu'il y a une particule de matière pour une particule d'antimatière, eh bien, là, on n'aurait jamais existé puisque tout aurait été retourné en énergie. Okay. Mais là, ce qui est arrivé pour que justement les quarks apparaissent et tout ça, c'est qu'il y a eu une asymétrie dans ce ratio-là. Donc on est très chanceux parce que ça veut dire qu'il y a peut-être eu 1.5 particules de matière pour chaque particule d'antimatière.
Fait qu'on est devenu la matière rejet.
Un peu. Celle qui n'a pas trouvé de
partenaire.
De son voisin.
Ouais, c'est
son
nous voisin. Autres, ça. Nous autres, on est la matière rejet de l'univers.
Je pense pas qu'il faut le voir comme ça, Dominique.
Mais comment qu'on le voit d'abord? Donne-moi une solution,
s'il te plaît. On est les chanceux qui ont pu avoir cette expérience-là.
OK.
De devenir... Et oui. Et donc là, c'est ça. Pour chaque million d'annihilation, un seul hadron survit. Puis c'est avec justement ces survivants-là qu'on va avoir le fun, qu'on va avoir du fun parce que c'est ces survivants-là qui vont servir de source de matière pour créer les galaxies, les étoiles et les planètes.
Et nous, on fait partie de ça.
Oui, exact.
Wow. Moi, je suis captivé à t'entendre parler, honnêtement. J'entends tout ça, puis c'est un sujet qui peut paraître difficile, mais je trouve que tu le vulgarises bien.
C'est bon. On continue comme ça, on va essayer de garder cette vulgarisation-là. Nous sommes maintenant à une seconde passée. Et là, une seconde, c'est quand même intéressant parce que là, l'univers a un peu refroidi. Donc, quand je disais qu'il y avait de l'annihilation entre les photons puis avec les photons, non. Là, trop froid pour ça. Donc là, mais par contre, l'univers est encore assez chaud pour cuisiner des électrons et des positrons. Positron, c'est le contraire, c'est un électron antimatière. Donc, c'est le contraire. Mmh. Et là, eux, ils vont être construits à partir de la soupe de particules qu'on avait. Oui. Mais ça, c'est quand même intéressant parce que, justement, encore là, il est plus froid, mais on peut cuisiner des électrons et des positrons. Très important. Par contre, là, je vous ai peint quelques scènes différentes. Écoute, ça fait toute une galerie d'or.
Ça fait un beau 5 minutes, puis on a expliqué une seconde.
Une seconde de l'univers, ouais. Mais là, je vais faire un zoom, me projeter loin dans le temps parce que pour le prochain milliard d'années de l'univers l'univers continue à s'étendre et refroidir, puis en général ce qui va se passer, c'est que la matière va graviter pour former des galaxies. C'est ça.
Il y a un malaise, mais j'ai rien d'autre à dire. Je trouve ça fascinant. Il y a un monsieur qui m'envoie la main dehors. Bonjour monsieur.
Ouais.
Donc là, ça
c'est
veut dire
un auditeur.
Donc ça a formé les galaxies. Ça a formé les galaxies, et là, la question que vous vous posez probablement, vous êtes des auditeurs, des auditrices assidus de Sequoia, de l'éclipse entre autres, et la semaine passée, on vous a dit, est-ce qu'on vit dans une simulation?
Aïe, aïe, aïe.
Et là, la réponse a été, peut-être, mais pourquoi ne pas simplement faire comme si c'était pas le cas, parce que c'est pas utile, puis c'est déprimant, puis ça nous amène à pas grand-chose. La question que je me pose, moi, puis la question que vous vous posez probablement en nous entendant parler cette semaine d'un sujet purement scientifique et non philosophique comme la semaine dernière, c'est est-ce que c'est la même chose quand on parle de l'origine de l'univers? Est-ce que c'est pas un peu contre-productif de faire ça?
Oui, on c'est même trop compliqué. Pas besoin de ça.
C'est... Ouais, ben peut-être. Il y en a...
Peut-être, ben oui. C'est un point de vue qui existe.
Oui, parce que présentement, on est en train de vous faire non seulement un cours de science, mais un cours d'histoire. C'est bon?
Ouais.
Puis, je pense que la réponse à la question que je viens de poser, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut savoir. Parce que dans la vie, en général, lorsqu'on pose une question, on veut une réponse. Mais la réponse qu'on va avoir va dépendre de la perspective qu'on donne à la question.
Okay.
Si je veux entendre parler, par exemple, de l'histoire du Québec et du Canada, par exemple, ben je ne partirai pas du début de l'origine de l'univers pour parler ensuite de l'apparition des humains.
Comme,
après
mes, comme mes sujets amenés préférés là, depuis la nuit des temps.
Ouais, mais
l'univers existe.
La prochaine fois que vous écrirez un sujet amené depuis la nuit des temps...
Non, ça c'est non.
Pensez aux hadrons. Pensez au lepton, pensez à cette belle soupe de particules.
C'est ça. Au lieu de dire depuis la nuit des temps, on dit depuis que l'univers peut cuisiner des électrons.
Depuis le Big Bang.
Ah, voilà.
Et vous pouvez même mettre votre petite source, là.
Ah.
Mettez une petite citation, écrivez depuis le Big Bang et mettez dans votre liste de référence Dominique Chevalier, CKIA, émission Eclipse.
Voilà. Écoute, ça, c'est des points gratuits, là, dans n'importe quel texte.
Vraiment. Mais donc. Le point que je veux faire ici, c'est que c'est utile de parler de l'histoire de l'univers, de son origine, parce que présentement, on ne veut pas parler de pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui arrivé à la COVID et qu'il y a un Québec et qu'il y a un Canada, et que, etc. Non, on n'est pas là. On veut vraiment savoir comment est-ce qu'on est arrivé ici, comment est-ce qu'il y a des phénomènes physiques qui arrivent, comment est-ce que ces phénomènes-là sont possibles et cohérents avec des lois écrites.
Oui, mais ben, c'est parce que comprendre comment l'univers a été créé, ça nous permet de comprendre d'autres choses, d'autres phénomènes physiques dans l'univers en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est très important.
Donc, c'est ça. Donc, l'histoire de l'univers en 10 minutes, c'est ça qu'on veut vous offrir comme perspective.
Okay.
Parce que, vous savez que, là, on a parlé de une seconde. Mm-hmm. L'univers est vieux de 13,8 milliards d'années.
Ça, c'est vieux.
Donc, ça en ferait beaucoup des émissions d'éclipse. En fait, ça pourrait être ça, notre deuxième saison d'éclipse. Pendant la deuxième saison d'éclipse, on vous explique seconde par seconde ce qui s'est passé pendant les 13,8 milliards d'années de l'univers. Mmh.
Vous devriez nous écrire sur Facebook si vous êtes intéressé pour là-dessus.
Ouais, écrivez-nous un courriel, éclipse, c'est kifm.org.
Commentaires.
On veut vos commentaires. non, mais bien, plus sérieusement. Pour faire ça, faut vraiment faire un zoom out. Là, on a zoomé sur l'atome primitif.
Oui.
Faut s'éloigner de tout ça. Et c'est difficile, comme tu l'as mentionné tantôt dans la chronique, Mathieu, de s'imaginer l'univers parce que c'est 13,8 milliards d'années, c'est gros, c'est plus loin que la limite de ce qui est intelligible, si on veut. Disons-nous que ces 13,8 milliards d'années-là sont 13 ans.
OK.
Tu sais, il y a des jeunes qui rentrent au secondaire qui ont 13 ans.
Ah, c'est sûr.
Pensez à la vie de ces jeunes-là. Et on va penser à l'univers comme étant un jeune qui rentre au secondaire.
Donc, l'univers est, est dans son adolescence.
Ouais. Okay. Là, je pense qu'il y a encore des controverses là-dessus. Là. Est-ce qu'à 13 ans, t'es un adolescent? Les gens de 13 ans vont dire « Oui, je suis un adolescent, j'ai le droit. » Puis les plus vieux vont dire « Ah, ben vous êtes encore des flots. »
Ben vois-tu, moi, je pense que oui, c'est des adolescents. Sais-tu pourquoi?
OK, explique-moi.
Parce qu'en anglais, c'est 13. C'est le premier chiffre où est-ce qu'il y a le mot « teen » à l'intérieur. Et adolescent, hein, c'est « teen ». Et donc, c'est pour ça. Voilà ma description de la chose.
Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va être notre sujet d'éclipse au retour le 11 janvier.
On verra ça.
L'adolescence. non, mais c'est ça. On veut décortiquer l'univers dans son 13 ans d'existence. Disons ça comme ça.
Ouais.
Parce que 13,8 milliards d'années. Bon. La vie complexe et multicellulaire sur Terre là, serait apparue. Vous regardez 13 ans, là. Il y a seulement 6 mois de ça.
OK. OK. Quand même.
Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'univers était en fin de 6e année du primaire.
Oh là là!
Les dinosaures auraient disparu il y a 3 semaines de tout ça.
OK. Fait...
Il y a 3 semaines, on était encore en zone rouge, je vous le rappelle.
Ouais.
Les humains seraient devenus des humains séparés des chimpanzés.
OK.
Il y a de ça 3 jours.
Oh là là, OK, fait que là, dans la vie de l'univers, là,
On est jeune, hein?
On est jeune.
Les hommes, parce que là, on a dit humain. Humain n'est pas un homo sapiens, ça, c'est un autre... OK, là, il y a trop de nuances à faire. Un humain, c'est un être qui commence par homo, donc dans la taxonomie, là, homo. Et nous autres, on est des homo sapiens.
Mais là, il y a toutes les autres...
Homo erectus, homo néandertalis, il y a plein de d'homo, comme ça, là, dans le genre homo. Ben là, il y a homo sapiens. Nous, en tant que homo sapiens, on est apparu il y a de ça 50 minutes.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, vous vous prépariez avec votre radio à syntoniser ces cas-là pour écouter Eclipse. Il y a de ça 50 minutes. Tu sais, là, ça fait à peu près 40, là. Il y a de ça 50 minutes.
Quand même, quand même.
L'agriculture a été inventée alors que tu nous parlais de la soupe de particules. Il y a de ça 6 minutes, Mathieu.
OK.
Et la révolution industrielle a eu lieu il y a 6 secondes de tout ça. Et pour revenir au Big Bang, le Big Mac serait apparu, jeu de mots douteux, et il y a une seconde de ça.
Hey, mais en tout cas, je peux te dire que l'adolescent qui est l'univers, il est productif.
Ouais, hein?
Il en fait des choses, rapidement quand même.
Donc vous comprenez à quel point, quand on dit qu'on est de la poussière, on est de la poussière.
Oui. Mm-hmm. Mais il y a une beauté dans tout ça, tu sais.
Ben, explique-moi.
Ben, vois-tu, on vient de l'univers, puis l'univers est tellement vaste, mais on se sent tellement petit dans ce vaste univers. Mais la vie, c'est précieux, là. C'est précieux, la vie, ça arrive pas souvent. Tous les phénomènes qu'on vous a décrits, c'est des phénomènes qui ont des conditions... Des grosses conditions, là, des conditions importantes qui doivent être respectées, sinon on serait pas là.
On pense simplement au rapport de particules qui n'était pas égal.
La symétrie, qui est totalement... en ce moment, les scientifiques pensent que ça serait de la chance. Donc, on a juste vraiment été chanceux d'être là comme ça.
Et on en parlait tantôt avant d'ouvrir l'émission, mais tu me dis dans les règles des probabilités, là, que l'univers arrive, que nous soyons là en tant que race humaine, c'est tellement infime que c'est surprenant qu'on soit là.
Ouais.
Puis en même temps, tu dis, ben, en fait, tu me disais, bon, c'est comme si c'était impossible parce qu'on est arrivé, mais on n'est pas censé être là. Mais en même temps, il n'y a jamais de probabilité zéro.
C'est vrai.
Puis... Si tu regardes ça dans un autre sens, je pense que au point de vue probabilité, là, si le fait que la symétrie était là ou qu'elle était pas là, si c'est une chance sur deux, par exemple, ben il y aurait probablement plus de planètes avec de la vie. Il y aurait probablement deux univers. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Si c'était très probable qu'on soit là, si c'était facile, il y en aurait d'autres.
À date, on n'en a pas trouvé.
Oui, à date, on n'en a pas trouvé. Donc, voilà.
On commence au Big Bang parce que les physiciens disent que l'espace et le temps sont deux choses pour parler d'une même chose.
L'espace-temps.
L'espace-temps. Mais c'est quoi ce mot-là? L'espace-temps.
L'espace-temps, c'est...
C'est l'espace du temps?
Non, l'espace-temps. C'est l'espace et le temps ensemble parce que le Big Bang serait ce qui est à l'origine de l'espace et du temps. Et ça veut dire que c'est impossible de parler d'avant le Big Bang. Parce que le temps serait apparu au Big Bang.
Ouais.
Alors, avant le Big Bang, il n'y avait pas d'espace et il n'y avait pas de temps.
Bon, là, juste pour clarifier des choses, là, quand on parle de temps, on parle pas de l'horloge. Parce que ça, l'horloge, c'est quelque chose qu'on a inventé.
Oui.
Mais on parle du temps en tant que... Tu sais, l'entropie, le phénomène que... les choses vont vers le désordre. Tu sais, qu'au début, ton café, il est bien... les étages, lait, sucre, je sais pas ce qu'on met dans un café, désolé. mais les choses sont toutes ordonnées, et puis là, quand tu brasses, ça fait quelque chose de plus désordonné. Mais là, donc l'espace-temps. L'espace-temps. Est-ce que on pourrait voir ça comme... T'sais, on vit en trois dimensions. On a l'axe des X qui est à ma droite et ma gauche, l'axe des Y qui serait en haut en bas, l'axe des Z qui serait en avant en arrière. Mais là, le temps, ça serait la quatrième dimension dans l'espace, dans l'univers. Je veux dire, la dimension spatiale, spatio-temporelle. C'est pour ça on parle spatio-temporel, espace-temps.
L'espace-temps.
C'est ça.
Mais voilà, donc, de dire... C'est pour ça qu'on commence notre histoire au Big Bang tout le temps quand on parle de l'univers, parce qu'il y a pas... Tu peux pas vraiment parler de avant. Et les lois mathématiques sont ils nous prouvent ça. Si on, ben, ils nous prouvent pas, on prouve jamais en science, mais ils supportent l'hypothèse qu'il y a pas grand-chose avant le Big Bang. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est arrivé? On est loin de le savoir encore. Est-ce qu'on va le savoir? Ben, je l'espère. Mais tout ça pour vous dire, donc, que vous l'avez vu, là, ça a pris quelques secondes à l'univers pour se former, pas plus. 10 secondes après le Big Bang, on dit que le Big Bang, je l'ai encore dit, on dit que toutes les lois de la physique que nous connaissons aujourd'hui, et on continue à les découvrir, là, étaient déjà applicables. Donc, tout ce qui est gravité, les lois de Maxwell, là, les lois de l'électromagnétisme, les atomes, tout ça existait déjà 10 secondes après le Big Bang. Et donc, bon, là, on a déjà dit que l'antimatière créée s'était convertie en énergie. Tout ça pour dire que il y a eu, avec cette énergie-là, donc, oui, une perte de température. T'en as parlé comme quoi l'univers était devenu plus froid. Mais il y a une partie de cette matière-là qui s'est transformée en radiation, Mathieu.
OK.
Donc ça veut dire qu'il y a des ondes qui ont été émises et qui sont toujours émises constamment. On appelle ça le Cosmic Background Radiation, la radiation cosmique en arrière-plan qui est toujours là. Ça, par exemple, lorsque vous syntonisez une radio traditionnelle,
oui,
vous voulez mettre ces KIA et vous mettez ça au 88.5.
Désolé si le 88.5 existe pour vrai.
Je sais pas si ça existe. En tout cas, à Québec, je ne crois pas qu'on peut syntoniser un 88.5. Vous pouvez définitivement syntoniser le 88.3, mais le 88.5, ça va faire griche, ça va faire chhh. Et dans cette statique-là, dans le chhh, il y a une partie des ondes que vous percevez qui sont le Cosmic Background Radiation. Il y a une partie de ces ondes-là que c'est l'univers. L'univers est en train de communiquer avec vous. Et entendez notre voix par l'intermédiaire de votre radio traditionnelle au 88.3, mais il y a une partie de ce que vous entendez qui est également la radiation cosmique d'arrière-plan.
OK, fait que là, t'es en train de me dire que quand j'écoute la radio, l'univers me murmure à l'oreille.
Ouais, l'univers est toujours en train de nous rappeler sa présence. Parce que c'est fou, hein? Là, on est en train de parler de l'univers comme s'il était ailleurs. Mais on est dans l'univers.
J'avoue. Hein.
Moi, je trouve que c'est une belle dualité.
C'est drôle parce que c'est comme si on pointait. On dit l'univers, là, là.
Mais dans quelle direction qu'on pointe? Le sud?
Je sais pas. Hein.
C'est vers où l'univers? Là.
Partout.
Il y a d'ailleurs un touriste qui m'a posé cette question-là dans le Vieux-Port récemment.
Okay.
C'est vers où l'univers, monsieur? Allez à la gare du Palais, ils vont vous le dire. Voilà. Maintenant, une autre question qu'on se pose, puis on l'a dit tantôt quand même, quand Lou nous posait la question, pouvez-vous nous dire, nous nommer quelque chose de fini, mais qui n'a pas de barrière physique? Elle nous a parlé des pays. Très belle analogie, parce que ça revient à l'intersubjectif. Tout le monde croit aux frontières, en fait. C'est très controversé, ce que je dis. C'est très controversé, ce que
Ça fait partie de la réalité intersubjective qu'on a parlé plus tard. On va laisser ça comme ça.
Voyons, n'embarquons pas là-dedans, mais... L'univers est-il éternel ou infini? L'univers est fini. L'univers est fini et pourquoi? Parce que ce serait impossible qu'il soit éternel. Sinon, le temps et l'espace seraient infinis. Et il n'y aurait pas de distinction entre le jour et la nuit. Parce que le temps serait infini.
OK.
Donc, voilà. Je peux pas vraiment aller plus loin là-dedans.
Ah, c'est des trucs complexes, là.
C'est des choses très complexes et il y a une formule mathématique pour l'expliquer, mais je ne peux pas m'aventurer là-dedans parce que...
Les formules mathématiques, c'est difficile à
expliquer à la radio.
À la radio, surtout, hein?
Ouais.
Ouais, pi 2, 4, 3, x...
c'est ça. Plus difficile. voilà. Donc, le fait qu'on distingue un avant, un après et un jour et la nuit, ce sont des signes que l'univers est fini. Donc, voilà. On a parlé du Doppler effect un peu avec Lou. Et on a dit maintenant, récemment, là, que l'univers était fini. Une autre chose qu'on sait, Puis un des principes qu'on voit en philosophie, c'est que la condition humaine, c'est une condition qui est mortelle. Donc, on n'est pas immortel. Ouais. Est-ce qu'on est immortel, cependant, Mathieu? Je pose la question quand même.
Ben, c'est ça. Il y a quelque chose de drôle au niveau quantique lorsqu'on se pose cette question-là. On parlait de probabilité tantôt.
Oui.
Là, on va s'amuser avec les probabilités, je te dis.
Cool.
Préparez-vous, là. Attachez-vous, là. Ça va être tout qu'un
On n'est pas en train de vous séquestrer. On vous demande juste de bien vous attacher.
Soyez assis, position confortable. OK. Le chat de Schrödinger. Mais qu'est-ce que c'est ça?
Oui.
OK. Je t'explique rapidement.
T'as 5 minutes.
C'est une théorie. 5 minutes pour expliquer est-ce qu'on est immortel au niveau quantique. Let's go, ça commence maintenant. Allez, allez, allez. Okay. Le chat de Schrödinger. En gros, t'as un chat dans une boîte avec une bombe. Yeah. OK, bon,
vas-y.
Ça sera pas une chanson. Donc, on a le chat de Schrödinger. C'est une expérience de pensée. Si tu prends un chat et tu le mets dans une boîte avec une bombe, c'est pas la, ça sera pas de la
c'est pas de la cruauté animale.
Non, parce
c'est
que
une expérience.
Il est engagé pour la science puis il aime ça le chat, OK? Le chat, il a voulu, OK?
C'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé, c'est une expérience de pensée. Mais là, ouais. Donc tu mets un chat dans une boîte avec une bombe. La bombe explose seulement si il y a un électron qui tourne vers le haut. Donc là t'as, dans la boîte, t'as le chat, la bombe et un électron. Si tu mesures l'électron, il tourne vers le haut, la bombe explose. S'il tourne vers le bas, la bombe n'explose pas. On mesure l'électron à chaque seconde. Si on ferme la boîte et on attend une seconde, on ne peut pas savoir sans ouvrir la boîte si le chat est vivant.
Okay.
C'est une boîte bien renforcée, là, c'est une petite bombe.
On
ne
peut pas savoir si la bombe a explosé ou
c'est
pas.
Ça. C'est ça, tant que tu n'ouvres pas la boîte. Mais là, en mécanique quantique, les choses peuvent exister sur un état de superposition.
Okay.
Un état de superposition, ça veut dire que les deux états en même temps sont réels jusqu'à observation. Ça veut dire que, tu sais, en ce moment-là, l'électron, quand il vers le haut ou vers le bas, ben ça, c'est aléatoire. OK? S'il va vers le haut ou le bas. Mais là, tant que tu n'ouvres pas la boîte, le chat est à la fois vivant et à la fois mort, parce que tu n'as pas vérifié.
Okay.
Puis les deux choses existent en même temps dans la boîte. Et ça, c'est le Copenhagen Interpretation. OK? Mais le Copenhagen Interpretation, il est moins crédible. Par contre, un nouveau concept qui a été inventé par les physiciens, qui eux sont toujours avides de trouver des nouvelles idées, comme ça, c'est un concept qui s'appelle la théorie des nombreux mondes et qui explique en fait que lorsque la superposition est brisée, eh bien, un nouveau monde est créé pour chaque résultat.
Okay.
Donc ça veut dire que ta boîte est fermée, tu ne sais pas si le chat est vivant ou est mort. Quand tu ouvres ta boîte, l'univers va décider si tu... Ben, l'univers va se séparer en deux mondes différents, un monde dans lequel le chat est vivant et un monde dans lequel le chat est décédé.
Et est-ce que la même chose peut arriver avec nous?
C'est ça. Imagine, tu te mets dans la boîte. Là, si on mesure l'électron, au début, tes chances de survivre, c'est 50%. À la deuxième seconde, ça va être 25%. Ensuite, 12,5%.
Parce qu'on multiplie toujours une demi à chaque seconde. Donc, une demi fois une demi fois une demi.
Mais là, si tu répètes, à chaque fois que tu le fais, tu as moins en moins de chances de survivre. Mais là, si tu répètes cette expérience-là plusieurs fois et que tu remarques qu'à un certain temps, à chaque fois, tu es toujours vivant et la bombe n'explose pas, ben, tu as prouvé la théorie des nombreux mondes parce que c'est statistiquement improbable que tu aies survécu comme ça. Et puis, ça veut dire qu'à chaque fois que tu mesurais, tu allais dans un univers dans lequel tu survivais. Mais dans tous les autres univers, tu es décédé. Puis les gens autour de toi pensent que tu es décédé.
Donc, dans la majorité des univers qui existent, des univers parallèles de notre monde...
Oui.
On est décédé.
Possible, oui, en effet. Puis pour toutes les gens autour de nous, on est décédé. Puis en fait, pourquoi tu es juste dans l'univers que tu es encore vivant? Ben c'est parce que... Deux secondes.
C'est parce que tu es conscient, tu es dans cet univers-là.
C'est sûr.
Fait que tu expériences, l'expérience de cette réalité-là, de cet univers-là.
Parce qu'après tout, on peut pas exister dans un univers dans lequel on est mort. Fait que tu restes tout le temps dans l'univers dans lequel tu es vivant.
Donc, oh boy. Donc, je sais pas si vous, ça vous fait quoi.
Ne pas essayer à la maison.
Moi, ça me fait un petit frisson.
Ne pas essayer à la maison.
Et écoute, c'est une belle façon de terminer l'année 2020 dans Eclipse. Ouais. On finit sur une hypothèse de l'immortalité. Mm-hmm. Vous voyez donc la direction où cette émission-là allait et où elle voulait aller et n'est peut-être pas allée, et où elle ne devait pas aller et est allée. Donc, c'était Eclipse, tout le monde, saison 1 depuis septembre. On est content de vous avoir su, de vous savoir à l'écoute.
Ouais.
On va être de retour le 11 janvier pour encore une fois des mabouleries, Mathieu. Incroyable. Oh,
toutes sortes d'idées.
Et ben, d'ici là, vous aurez la chance d'avoir des plusieurs, comment dire, rediffusions des émissions, donc des meilleurs moments d'Eclipse. Et c'est sur ça qu'on va vous souhaiter à la prochaine. La pub va dire le retour la semaine prochaine, mais c'est pas vrai.
Ce n'est qu'un au revoir.
Salut.